Ce podcast est enregistré dans le studio de choc.ca à Montréal, sur le territoire non cédé par les Premières Nations qui l'habitent encore.
Alors, lettre à mon naufragé. Tu n'existes pas, mais on me parle souvent de toi. Tu vis au travers du chagrin qu'il me porte. Tu ne verras jamais la mer, mais tu l'entendras peut-être parfois. Tu comprendras ses méandres et tu te feras bercer par ses marées. Tu continueras de vivre dans leur déception. Tu n'espéreras rien, puisque tu as bien compris que de ton petit radeau, tu ne naviguerais pas que dans l'océan. Les fleuves, les rivières, les étangs et les ruisseaux te berceraient aussi. Il se pourrait même que tu finisses dans un égout. Alors que l'on me peint sur les tableaux qu'avec toi, on ne me promet pas plus de peinture. Il ne saurait me faire de la lumière pour me guider au port, alors que je devrais te porter dans mon navire sans capitaine. Et voilà, c'était comme ça que j'ai sorti.
Intéressant. Ben oui, un exemple, mettons, pour faire le lien avec la manière qu'on peut jouer avec les mots, j'en ai écrit quelques-uns. Ben, laissez-moi penser. Je vais regarder toutes. Vous en avez pas, vous? Je suis curieuse.
Ben, y a
des mots
qui n'ont pas la même signification.
OK, mais mettons, je vais donner un exemple vraiment comme queer. Genre, c'est vraiment basic, là, tu sais, parce que, mais tu sais, c'est comme... À la base, c'était un mot qui signifiait comme... Tu sais, c'était une insulte à la base. Qui a été pris par des personnes, par des minorités sexuelles pour créer comme un site de résistance, pour comme faire un parapluie puis pouvoir se... Tu sais, quand tu t'identifies comme étant queer, ben, de ce que j'ai compris, là, je peux parler pour ces personnes-là, ben, c'est comme si tu peux comme... avoir une identité. Tu peux reconnaître d'autres personnes qui ont la même identité que toi ou qui ont des choses en commun avec toi. Fait que c'est comme si vous avez un peu comme une identité partagée. Fait que là, tu sais, juste ça, on voit que c'est pas utilisé comme dans le même contexte qu'au début. Tu sais, c'est plus une insulte. Tu sais, ça a une portée plus de résistance, tu sais, de s'émanciper en tant que minorité sexuelle. Donc voilà. Sinon, je peux donner une... Mais tu veux-tu dire quelque chose?
Ben non, mais en tant que personne queer.
Ouais.
Non, mais c'est vrai, mais je pense que c'est le pattern que plusieurs mots ont, surtout des mots justement qui étaient décrits pour désigner des minorités de manière péjorative. Puis c'est juste de changer ce côté-là péjoratif du mot, puis de se le réapproprier, d'en faire une force.
Ouais, mais c'est une réappropriation du stigmate, fait qu'il y a des meufs qui vont s'appeler bitches entre elles. Parce que justement, ça leur donne du pouvoir, genre.
C'est ça.
Parce qu'on les a toujours shamés dans leur life et que maintenant c'est comme hey, how are you? Fag, même fag, ça a été repris.
Mais tous ces mots-là, là, c'est ça. Là, même si c'est pas exactement le même pattern, mais c'est un peu la même idée.
Et le mot tabernacle? Parce que moi, j'aimerais bien qu'on parle des sacrements, puisqu'on parle
du
Québécois et tout. J'aimerais ça que vous expliquiez ça, parce que, alors, pour ceux qui ne sont pas du tout familiers au tabernacle, les hosties de français de marde, en gros, le tabernacle, c'est vraiment un mot valise qui est utilisé surtout dans des ponctuations de phrases pour marquer l'émotion, qu'est-ce qu'on veut faire comprendre à la personne avec une intonation, et c'est tellement utilisé dans l'humour.
Moi, je sais même pas c'est quoi un tabernacle, excuse-moi. Là. T'étais c'est comme les hosties français de marde, tu sais pas c'est quoi, mais je sais même pas. Genre, je sais que c'est un vase.
Mais ils savent pas comment le dire aussi, mais c'est un tabernacle. C'est
C'est quoi déjà?
C'est un vase.
Oh, c'est là où tu mets le.
Ouais.
Où tu mets
les.
Quoi, Eloi?
Ouais, quoi, c'est?
Mais c'est parce qu'on est allé à la messe, et écoutez.
Mais je sais qu'un ciboire, c'est un. Une coupe, là, genre.
Calice.
Ciboire.
Je pense que c'est juste le sti caché, c'est quoi? Puis
le sti, c'est le petit pain.
C'est le
sti. L'affaire qu'on mange?
Ouais, c'est le truc qu'on, okay. qu'on mange.
Mais tous les autres, genre
sti, de tabarnak.
Et nous, c'est plutôt hosti, on va dire, et c'est du coup le pain de Dieu.
Mais c'est un sti, le vrai mot.
J'aimerais bien que les prêtres à la messe en France fassent. Ouais, c'est l'hosti de créer.
Je peux expliquer nos sacs québécois, si vous voulez.
Tu veux-tu en expliquer un ou deux, vu qu'on n'a pas beaucoup de temps?
Non, mais le principe des sacs québécois, en fait.
Ah oui, vas-y.
C'est qu'au Québec, contrairement à, disons, la culture... je sais pas quel mot on peut dire ou pas, là. Mais
tu peux dire ce que tu veux, on est dans une radio émergente.
OK, parfait. Mais disons que les sacs... aux États-Unis, on va avoir des mots qui sont très liés à la sexualité, comme « fuck », « son of a bitch », qui sont en fait les mêmes qu'en France. « Putain », fils de pute. Bon, voilà. On comprend, là. Et, mais nous, on a des sacres qui ont une connotation complètement différente au Québec, dû à notre histoire avec la religion. En fait, le Québec était très, très religieux jusqu'à... bon, là, je vais pas nommer de date parce que je vais me tromper.
C'est dans les années 90.
Quoi?
C'est les années 90.
Non.
Même avant.
Non, mais les années 60, je crois que c'est la révolution tranquille.
70, il y a eu comme...
Mais il y a eu plusieurs vagues, là.
Ouais.
Avec René Lévesque et tout, tu veux dire?
Ouais, mais ça, c'était en 90.
Ouais, c'est dans les années 70.
Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais.
Je sais même pas, moi.
En tout cas, dans la deuxième moitié du 20e siècle, il y a eu des vagues de libération au Québec contre l'Église, puis... ben même avant, je pense, hey, là, mon Dieu, que je m'embarque dans des choses que je sais pas. Mais nos sacres, c'est tous des mots liés à des objets de l'Église catholique, dans le fond, en réponse, en comme signe de protestation contre l'Église catholique. Mais okay. pour nous qui sommes une société qui a complètement changé là, au niveau religieux, tu sais, on... Je pense qu'aujourd'hui, il y a encore des gens religieux au Québec, mais c'est, disons, moins présent qu'aux États-Unis, beaucoup. On a eu comme un renversement complètement à ce niveau-là. Donc, les sacs, pour nous, comme là, on le voyait, on ne sait même pas c'est quoi un tabernacle. ça pas un poids très lourd pour nous. C'est, on sait que c'est un mauvais mot, puisque c'est un mauvais mot.
C'est ça, c'est quand même vraiment mal vu, genre, c'est de mal vu. Sacré. Ouais. Mettons, nos parents, ils veulent pas. Mon père, il est genre, faut pas que tu sacres.
Ça dépend du contexte. Mais il y a toute l'affaire de genre, ah, c'est pas cute, une fille qui sacre.
Ben, c'est ça, puis c'est ça aussi qui est...
Mais je veux pas le dire, tu sais, tu m'avais dit une fois, comment est-ce qu'on faisait pour faire... C'est quoi déjà? Tu dis, au lieu de dire... Genre, tu veux pas que tes parents, ils t'entendent dire tabernacle, donc tu dis... Tabernouette.
Tabernouette, maudit.
Ouais, c'est ça, tu sais, il y a des petits mots un peu remplacés, genre barouette à pain, mon père disait ça. Non! mon père, il nous appelle des...
C'est quoi?
Crime puff?
Ouais, bon. Crime puff.
Mon père nous appelle des triples pantins, mais tu sais, ça commence.
C'est juste genre...
À vous!
Mais ça, je trouve ça drôle de pourquoi ça va être super, genre, esti, tabarnak, calis, Chris, ça va être vraiment mauvais, mais une petite coche en dessous, t'as le droit de dire maudit, tabarouette, maudit. Genre, ça c'est des mots tellement corrects. Genre, je comprends.
Mais pourquoi c'est autant mal vu, ça, on sait-tu, tu sais? Pourquoi?
Parce que c'est des mots d'église, genre.
C'est pour ça.
Ben, non, parce que c'était des mots de protestation, tu dis?
Ben, parce que c'est des mots d'église, puis l'église avait un grand pouvoir, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est comme je disais, ben, je pense, mon interprétation, là, mais que c'est des mauvais mots juste parce que c'est des mauvais mots. Là, on a décidé que c'est des mauvais mots. Je pense qu'avant, c'était plus offensant, puisqu'il y avait une grande population religieuse au Québec, mais...
C'était-tu offensant parce que c'est comme ce vocabulaire-là, c'était comme un peu genre le vocabulaire des autorités, genre de la noblesse. Fait que c'est comme le monde pas fancy, genre nous.
C'était des trucs sacrés, là. C'est ça. Tu peux pas parler contre l'Église, tu peux pas...
Puis ça a été réutilisé un peu contre ça, fait que c'est
pour provoquer un peu, ouais. Ouais. C'est sûrement... Ouais.
Ah, mais c'est intéressant.
Ouais, genre il y a ce truc aussi, genre dans l'art, où on voit à partir du moment où c'est... Il y a des manifestations, des révoltes, etc. Un changement dans le langage qui est aborté sur la scène, normalement. Enfin, habituellement théâtrale. Moi, je l'ai vu ici en arrivant avec Michel Tremblay, qui a écrit Les Belles Sœurs, qui est le premier texte qui déjà parle uniquement de personnages féminins. Merci, Michel. Et qui, en plus de ça, parle du coup de la place du joual, donc du langage avec des québéquismes québécois. Donc, c'est des personnages qui, pour certaines, parlent ouvertement joual et l'assument complètement parce qu'elles sont plutôt dans une certaine pauvreté. Elles n'ont pas forcément conscience des mots qu'elles emploient. Et pour d'autres, elles essaient de cacher de temps à autre dans la pièce le fait que, hop, il y a un petit sacrement qui sort et elles ne veulent pas le dire parce qu'elles veulent paraître françaises. Vous voyez ce que je veux dire?
Parce qu'enfin, le monde ordinaire pouvait se reconnaître quelque part, sur scène, genre.
C'était dingue. Mm. C'est fort, en vrai. Oh, puis nous, on a sûrement vécu ça aussi, mais je pense que nous, ça s'est plutôt fait dans la chanson avec Renaud et tout ça, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Puis avec Marcel Pagnol, qui fait rentrer des personnages marseillais dans la littérature française. Mais
je pense qu'il y a aussi, moi j'ai étudié ça il n'y a pas longtemps, là, c'est comme le modernisme, à partir du moment où Guy de Maupassant, il a comme genre intégré des personnages qui avaient des classes sociales moins élevées dans la littérature, genre.
C'est ça.
C'est ça.
Ouais, bah, c'est ça.
Mais ces révolutions-là aussi, c'est... Souvent, ça vient avec un boom artistique aussi qui vient autour de ça. Souvent, l'art est utilisé aussi comme vecteur de changement. Comme, par exemple, justement au Québec, quand on a eu le refus global, un peu avant la Révolution tranquille, qui était un manifeste d'artiste.
Le refus global.
Oui, oui. On va peut-être en reparler, mais il y a eu plein aussi de manifestes en Europe, là, entre autres, là, au 20e siècle. Plein d'artistes qui utilisaient leur voix pour justement se positionner contre les changements politiques ou...
Ouais. Non, mais c'est vrai.
Vues sociales,
mais ça, c'est vraiment... c'est un bon point qui te soulève, hein, en gazon.
Ah ouais.
le manifeste du refus global, ben, je sais pas si vous savez c'est quoi, là. Ben, en fait, c'est un manifeste qui vise, dont les signataires visent à créer comme un, ben, en fait, faire un changement de paradigme un peu, comme briser les normes chrétiennes, religieuses, catholiques dans l'art pour ben, apporter quelque chose de nouveau. Là. Ça, je voudrais pas me prononcer parce que t'en sais probablement plus que moi, Léa. Mais c'est une bonne idée de... Ben, en fait,
je vous invite à le lire, c'est pas très long.
Ouais, non, c'est comme une page. Mais...
Non,
ah, ok, bon, c'est plus que ça.
Ben, on le mettra en description de l'épisode.
Bon, on le mettra en description de l'épisode.
D'ailleurs, François Sullivan, signataire du Refus Global, est encore vivante aujourd'hui.
Oh, elle a passé à tout le monde en parle.
Ah oui, oui. Okay, cool. Ben, elle a 100 ans, puis elle va avoir une exposition bientôt. Restez à l'affût. OK, ben la Révolution tranquille, c'était une période de réforme importante au Québec dans les années 60, qui est une période justement où les gens manifestaient surtout contre le pouvoir de l'Église. C'est à ce moment-là aussi qu'avant, c'était des religieux qui prenaient la place qui enseignaient dans nos écoles, qui étaient professeurs. Puis c'était entre autres pour que l'Église soit plus dans le système scolaire et puis d'autres enjeux aussi. Mais on l'appelle Révolution tranquille puisqu'il n'y a pas eu de violence à cette révolution-là, que ça s'est fait seulement par la population qui s'est soulevée contre l'État de manière pacifique. Voilà.
Merci. Mais c'est un lien que j'aimerais faire entre le politique, le réel et plus le récit de soi, parce que le refus global, en fait, ça a été comme raconté aussi par la bouche d'Anaïs Barbeau-Lavalette, là, qui est une autrice québécoise que probablement vous connaissez. Elle a fait La femme qui fuit. Là. Bon, plein de gens ont lu ça au cégep. Moi, je suis vraiment quiétaine, mais je suis une de ses grandes fans. En fait, c'est ça. Elle a fait une enquête sur la vie de sa grand-mère, qui était une signataire du refus global. Puis, elle raconte sa vie, justement, avec du vocabulaire qui se rattache beaucoup à la figure de la sorcière. Donc, elle parle beaucoup de mouvements, de traversées, de contraintes à la maternité. Tu sais, qu'à ce moment-là, c'était mal vu, tu sais, d'être une femme indépendante qui s'installait à un endroit puis qui restait là. Elle avait des relations des relations amoureuses très éphémères. Elle voyageait beaucoup, donc je pense que ça fait quand même écho. Ben, j'ai un petit passage ici d'un livre de Marie-Ève Lacasse qui s'appelle « Autobiographie de l'étranger » que j'ai commencé à lire hier soir en panique pour le podcast parce que j'étais comme « What the fuck am I gonna talk about? » donc, ça va... En fait, c'est ça et ça, donc c'est pas trop long.
Non,
mais
non.
OK. J'essaie d'écrire en me disant que je me rapproche au plus près d'une vérité nue, non tronquée, non décorative, qui ne soit pas de celle qui protégerait la narratrice, moi, parce que je veux continuer à être aimée au-delà du livre. Mais ce n'est pas possible. Et écrire ainsi, c'est détruire les liens. Je sens bien que je suis sur le point de les couper avec mes ciseaux de parc. Il y a toujours cette tension entre révéler et cacher, entre arranger et dire. Et pour que ce livre ne s'apparente pas à un rapport de police, je réfléchis sans cesse au désir de confession, à cette envie de raconter et de se raconter. Cette expression aussi que j'entends tout le temps, « j'avoue », c'est bien la preuve que nous vivons dans une société de surveillance.
Donc, je trouvais que ça faisait un lien intéressant avec le podcast parce que je trouve qu'aujourd'hui, en tout cas, on a quand même fait des grosses confessions pour certains, certaines d'entre nous. Puis je trouve ça intéressant le thème de l'aveu qui est comme abordé par Michel Foucault qui dit qu'on est dans une société particulièrement avouante. Puis en fait, ça fait un peu... qu'est-ce que ça met en lumière le fait qu'on soit dans une société avouante? Puis de le nommer comme ça, c'est qu'on est tout le temps en train de se surveiller. C'est pas, on ne surveille pas à cause de normes, de lois formelles, mais tu sais, c'est comme on se surveille parce qu'on ne veut pas être déviant, déviante, on se surveille parce qu'on ne veut pas être marginalisé. Il faut dire certains trucs, il ne faut pas comme trop en dire. Puis c'est comme si ça régule tout le temps qu'est-ce qu'on est sur le point de livrer aux gens. Fait que je trouve ça intéressant. Puis je trouvais ça cool tantôt qu'on parlait du Québec parce que c'est vrai qu'on est beaucoup dans l'émotion. Puis qu'on est comme... Ben, en fait, tu sais, qu'on parle beaucoup de nos sentiments, fait que c'est comme on est souvent en train d'avouer quelque chose, puis en même temps, je trouve qu'on est justement dans une société beaucoup surveillante pour tout ce qui est comme, tu sais, on va éviter les débats, on veut être poli, on n'est pas dans la confrontation, fait que c'est comme si on a toujours besoin d'avouer quelque chose au lieu de juste le dire. Tu sais, pourquoi un avoue? En tout cas, voilà, je trouvais que ça
concise. Ouais, ouais. Ça me fait quasiment... en tout cas, un lien avec ce que Marine disait dans un autre podcast, là, le fait de... Ben, toi, c'était par rapport à te partager dans ton art, puis que ça va même réguler...
Ça me parle beaucoup, ouais.
Dans le personnel, même quand c'est pas un partage, ça régule la pensée de se sentir ben, comme ça, là, comme ce que Rosemary
disait. Ah non, mais complètement, là, ça me parle énormément.
Mm-hmm.
Mais tu sais, le mot, genre, vulnérable... Est-ce que pour vous, c'est positif en France ou c'est négatif, mettons?
Ah, je te dirais que ces dernières années, ça a pris un tournant positif, ouais, parce qu'on parle beaucoup de bien-être, de mental health, du coup, bref, en tout cas.
C'est ça, mais c'est parce que, tu sais, j'avais dit ça à mon père, genre, que je me sentais, mettons, vulnérable, puis il était comme, pour lui, c'est négatif, genre, dans sa tête.
Ouais.
J'étais genre, OK, c'est quand même weird, genre, de comme, c'est ça, on a du chemin à faire,
c'est
des fois, certaines personnes.
Pense,
ouais, c'est ça.
Ouais, ouais. Qui ont remis ça comme un atout, pour être justement dans l'aveu de tout ce qu'on n'a pas osé dire jusque-là. C'est ça.
Ouais, ben mon père il est complètement comme ça. Là, c'est ça. Ici, ben même de me dire que ça me fait pas du bien de ressentir ces émotions-là. En tout cas,
dads.
Ouais, dads. Bon, moi,
c'est
les
ça,
aime,
de ressentir ces émotions, c'est comme négatif, puis c'est pas bon, puis ça te fait sentir mal. Mais finalement, ça t'apprend juste à te connaître. Puis c'est
comme
beau,
quelque chose qui appartient aux femmes, genre.
Ben, où tu peux le vivre, là, au lieu de l'éviter, tu sais, le vivre, puis ensuite, c'est plus facile de passer au travers au lieu de le garder tout le temps dedans. Puis, en tout cas, je pense qu'on réalise ça, là, aussi, que c'est important de parler de ses émotions.
Mm-hmm. Oui, c'est vrai. Mais merci pour ces belles conversations, ces beaux échanges. Ça m'a fait du bien. Je suis vraiment contente de ce que vous avez apporté ce soir. Puis, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter?
Ben, moi, je pense que je voulais juste dire, parce qu'on dirait, je trouve ce podcast-là, on dirait me challenge beaucoup, un peu.
Mm-hmm.
Beaucoup, un peu. Parce que justement, je pense que le langage, on dirait, c'est quelque chose tellement que j'ai l'impression que je suis pas tant bonne, genre, avec les mots souvent. Fait que. On dirait que ça me challenge quand même de mettre une position là-dedans puis de justement partager des choses en lien avec ça. Fait qu'en tout cas, on dirait que je voulais juste laisser ça.
Non,
genre,
mais...
Je suis un peu comme plus anxieuse des fois par rapport à ce sujet-là. Puis je me sens comme imposteur full, mais...
Ben oui, mais tu sais, je tiens à dire genre que comme c'est vraiment pas d'une position d'autorité... genre, c'est comme un réflexe classique. Tu sais, c'est comme... c'est quand même un privilège d'avoir beaucoup de vocabulaire. Fait que, tu sais, je pense que moi, qu'est-ce que je voulais dire par langage, c'est aussi peut-être genre la manière qu'on a de transmettre nos histoires. Puis, tu sais, c'est comme, en ce moment, je fais un travail de recherche sur la surditude. Puis, tu sais, c'est comme, je réalise à quel point genre on prend tellement ça pour acquis.
C'est quoi la surditude?
La surdité?
Surdité?
Ah, je suis là, ça, la surditude. Comme si c'était une attitude, it's a lifestyle. Mais comme que c'est pas accessible à tout le monde. Puis.
Mais oui. Puis, tu sais, on a toutes, genre, notre façon d'aborder les choses et de parler et tout. Genre, fait que, tu sais, je pense que c'est bien correct aussi, là.
Ben, c'est
oui.
Ce qui fait que ce podcast est riche, là. C'est qu'on a une manière de livrer. Choses.
Mais je pense qu'il y a un côté thérapeutique quasiment, justement, comme on se disait, qu'on a l'impression que ce qu'on partage nous-mêmes, c'est pas pertinent, alors que tout ce que les autres partagent, je l'ai. Mais c'est un bon exercice de se rendre compte que se livrer, ça peut être bénéfique. Là, voilà.
C'est sûr qu'il y a du monde qui se reconnaissent, puis tout.
Oui, c'est sûr, mais juste de dire entre nous qu'on trouve ça enrichissant nos discussions. Ouais. En tout cas, moi, ça m'aide à prendre confiance un peu, là.
Mais oui.
Conseil aux auditeuristes, faites des podcasts avec des amis. Je pense que c'est vraiment ce genre.
Encore un extrait du livre Autobiographie de l'étranger. Or, ce que je découvre en écrivant, c'est qu'il n'y a pas de chez soi. Et comme ce lieu n'existe pas, je traîne une bibliothèque dans laquelle je peux compter sur de vieux amis. La maison, ce lieu utopique tant espéré, ce sont les livres des autres et peut-être un peu les miens. Je pourrais survivre longtemps avec un bout de papier et un crayon. C'est là où je trouve ma place, dans ce silence bruyant, occupé par des voix familières. J'invite le lecteur et la lectrice, c'est mon intervention, à entrer dans ce livre comme dans ma maison, car c'est ici que j'habite, dans une langue qui est la mienne.
Wow, c'est beau.
Merci.
Merci à tous.
Merci à tous.
Tu sais, c'est quoi?
Oui, nos rêves éveillés, les yeux ouverts au monde, aux sœurs et frères qui foncent,
je sais
avec nos 8.1 sous les lumières de scène, où nos rêves ont bougé. Ville un peu plus loin, qu'est-ce que tu peux ressentir? Ce que t'as envie de dire. Lance un peu plus vite au-delà de tes limites. Embarque dans la danse. Mix maniaque. Rêves-tu autant que nous?
Oh, t'as vraiment une belle voix.
Vous en direz que les accoucheuses d'idées, aussi un bend animé par Mich.
Bon, il fallait pas rire de même.
C'est pour ça que j'avais pas, mais j'étais à let's go. Mais j'ai compris la référence Mixmania, maintenant je connais.